Voici de retour pour entamer la dernière partie de notre émission spéciale dédiée aux Agora Collèges. Pour boucler le sujet, nous allons dresser un bilan de cette action, nous projeter dans l'avenir avec la suite des opérations. Pour cela, nous recevons maintenant quatre intervenants. Donc, nous avons toujours Elodie Minkala.
Présente, fidèle au poste.
Eh oui, et je vous remercie pour cela. Elodie, chargée de mission pour l'association Innov. Et nous avons Sandrine Farizon, animatrice des actions éducatives au Franca de l'Isère.
Bonjour Sandrine. Bonjour à tous.
Donc, Innov et les Franca de l'Isère, on le dit, on le répète, pour ceux qui n'étaient pas là lors des précédents plateaux, les deux associations qui pilotent, qui coordonnent, qui portent cette démarche des Agora Collèges. Nous ont également rejoint Éric Lehu, directeur de Gamma Prod, un autre partenaire sur les Agora Collèges.
Bonjour Éric. Eh bien, bonjour à tous.
Et puis, alors, je connais juste le prénom, Régis, puisque comme il y a eu un changement de dernière minute, donc je vous laisse vous présenter, tout simplement.
Oui, donc merci. Régis Cortés-Cerro, je suis sociologue, je suis chercheur, et je travaille sur diverses choses, dont les questions, la problématique de l'éducation à la citoyenneté. Notamment dans les mouvements d'éducation populaire au sein des professions de l'animation, des professionnels de jeunesse. Et une des raisons de ma présence ici, c'est que je suis sur un programme de recherche qui inclut dans ses terrains d'observation, qui inclut le projet Innov.
Ça va être intéressant de vous avoir autour de la table, puisque vous allez apporter un regard un petit peu de sociologue, justement, sur l'intérêt d'une démarche comme les Agora Collèges. Alors, Élodie, pour la dernière fois, c'est la toute dernière fois que je vous demande...
Mais c'est toujours un grand plaisir,
Christophe. Laisse faire Sandrine, puisqu'elle est tout à fait à même de présenter de manière générale les Agora, puisque on le dit encore. Alors désolé pour ceux qui suivent depuis le début, ils vont se dire mais ils se répètent d'un plateau à l'autre.
On en a marre.
Il y a des auditeurs qui arrivent en cours de route. Donc les Agora Collèges, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est Sandrine ou Élodie?
Alors les Agora Collèges, c'est une méthode qu'on dessème dans des collèges du département de l'Isère qui ont pour portée de permettre aux collégiens de prendre possession de leur collège, de proposer en tant qu'utilisateurs de leur collège, qui ont du coup une vision bien précise de ce qui s'y passe et qui vont pouvoir proposer des améliorations à apporter dans leur vie quotidienne au collège, que ce soit des améliorations au niveau du fonctionnement, au niveau de la vie, au niveau des rapports sociaux. Et ils sont pleins de force de proposition, donc c'est leur laisser la capacité d'agir au sein de leur établissement.
Je vais juste redonner la parole à Éric, parce que lors de la présentation, je ne vous ai pas laissé présenter la structure Gamma Prod. Donc quelques mots.
Et je suis directeur du studio Gamma Production.
Voilà, en plus de la présentation, juste nous dire pourquoi Gamma Prod a rejoint le collectif Innov.
Alors le studio, on est un studio d'enregistrement associatif, donc on enregistre tout ce qui est voix. Ça peut être autant pour faire du hip-hop, mais c'est surtout pour donner l'intérêt dans nos ateliers, parce qu'on a participé notamment avec Innov à l'été en place. C'est pour donner un côté cool à tout ce qui est ingénierie son. On se dit souvent que c'est énormément d'études, énormément de boutons. Moi, j'essaye de faire voir aux jeunes que à partir du moment où ils s'y connaissent en musique, ils peuvent l'être aussi. C'est de démystifier un peu tout ce côté trop technique et leur faire voir que de leur manière, ils peuvent y arriver. Et j'ai intégré les Agora tout simplement parce que je ne suis pas ingénieur bac plus 8000. Je suis rentré en tant que débrouillard.
Ah bon? Et leur personne n'est ingénieur bac plus 8000.
Non, mais façon de parler, mais c'était pour leur faire voir qu'on peut se débrouiller par soi-même pour arriver aux choses. À partir du moment où on y met de la détermination et de la motivation, et c'était de prendre part via mon parcours la parole avec les jeunes et leur faire voir que avec des idées on arrive à faire beaucoup de choses. Et là, je prends un exemple tout simple de ce qu'on disait, de comment eux peuvent faire en sorte qu'il se passe des choses dans leur collège. quelque chose qui est souvent revenu, c'était par exemple dans les cours de récréation, il n'y a pas assez de bancs. Et ben, c'était voir ensemble comment ils peuvent faire eux-mêmes des bancs, ne serait-ce qu'avec quelques palettes. Ils doivent savoir quel adulte va pouvoir les suivre, qu'est-ce qu'il faut comme fourniture, combien de temps ça prend, etc. Et à eux de s'engager pour arriver jusqu'à la finalité de ce projet et de monter des bancs pour leur préau. Voilà, c'est simple, mais au final, de les accompagner, là, ça leur fait voir que c'est une démarche qui part d'une idée, mais qui arrive surtout au bout. Voilà.
Ah, oui, Sandrine ?
Non, je voulais juste compléter, il y a aussi le fait de ne pas attendre tout des adultes. Et
exactement.
À un moment, quand on veut faire des choses, et ben, il suffit de se donner les moyens, d'aller taper aux bonnes portes, et que nous, notre rôle d'adulte, c'est juste de l'accompagnement de ces projets, et non pas de les donner à, mais de leur donner à faire, plutôt.
Exactement.
Alors, donc s'il fallait faire une petite évaluation de ces trois années, trois saisons déjà qui sont quasiment bouclées, plus ou moins, quatrième saison en cours des Agora Collèges. Donc du point de vue des Francas, d'Innov, même si on l'a compris, la première saison, il y a eu beaucoup de plâtre essuyé. Et puis forcément, d'une saison à l'autre, on apprend aussi des erreurs, on modifie des choses. Globalement, le bilan, il est plutôt positif.
Alors, je ferai un bilan effectivement plutôt positif du point de vue d'Innov de ce projet-là. Tout simplement parce qu'à la base, l'objectif, c'était d'être donc un chantier collectif et donc de faire bosser ensemble des partenaires qui se connaissaient peut-être pas forcément, qui n'avaient pas encore eu des occasions de se connaître très concrètement. Et puis de faire aussi bouger des fois un peu les choses du côté des institutions, comme par exemple là le département et les collèges. Et donc ça fait même plus que 3 ans, parce que c'est trois saisons de projet, mais chaque projet va durer un an, va s'étaler sur 2 années scolaires. Donc finalement, on s'est retrouvés donc avec le confinement, enfin différents aléas qu'on a tous vécu, à superposer des saisons, certaines qui ont été un peu plus longues que d'autres, plus laborieuses et autres. Mais globalement, là, au jour d'aujourd'hui, je trouve que on a quand même toujours tenu le choc pour arriver au bout des différentes phases et d'essayer de finir tout ce qui avait été à peu près commencé. Et donc, je trouve aussi que les partenariats se sont vraiment beaucoup étoffés. Aujourd'hui, on a un collectif avec une vingtaine de partenaires différents. Et encore, je compte même pas ceux qui sont venus. Enfin, c'est même plus que 20, parce que certains partenaires sont venus que pour une journée d'agora dans un collège. Donc des fois, ça peut être que sur du one shot, mais on n'empêche qu'ils ont quand même pu nous croiser notre chemin. Et derrière, c'est intéressant de voir si ça peut donner des suites. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui avec Eric, qui est Gamma Prod, qui est ici présent. Parce que bah voilà, donc le Gamma Prod, c'est un peu des gars sûrs qui aujourd'hui, du coup, en ayant poussé la porte avec simplement la participation à une journée d'agora, aujourd'hui ils vont même se lancer dans le nouveau projet des agora lycées, donc une déclinaison de ce projet là.
On va y revenir.
Tout à fait.
C'est les perspectives d'avenir, Sandrine, sur la partie bilan pour
du point de vue
des Francas.
D'un point de vue Franca, pour nous, c'est plutôt également un bilan positif, dans le sens où les Francas mettent la Convention internationale des droits de l'enfant au cœur de leur projet associatif. Et dans cette convention internationale, il y a le droit à la participation. Et donc là, on est complètement dans l'exercice de cette participation, dans un point de vue que ce soit la récolte de paroles et donner l'accès aux jeunes un impact sur leur territoire et le pouvoir d'agir sur leur propre territoire. Donc c'est vrai que ça avait du sens au démarrage qu'on soit un grand partenaire de ce projet-là, mais du coup c'est vraiment un bilan positif dans ce sens-là et aussi dans le sens où on se rend compte que dans certains établissements, des choses ont pu changer, en tout cas sur des projets où les jeunes vont avoir leur mot à dire, soit des sonneries, des choses complètement marginales, mais qui font partie de leur vie quotidienne, où on a vu à la suite de ces agoras des collèges qui proposaient en fait vraiment aux jeunes de donner leur avis sur d'autres sujets que ce qui était sorti au moment des récoltes de paroles et des agoras.
Et puis on en a parlé lors du dernier plateau, les Agora Collèges qui mènent à des projets qui sortent du collège, qui deviennent des projets de quartier. Là on est complètement, et Régis peut-être que vous pouvez apporter votre regard de sociologue justement sur cette action Agora Collège qui finalement Comme on dit, tache d'huile, ça s'étend un petit peu, ça sort du collège, ça engage des partenaires qui n'étaient pas, qui font pas partie du collectif à la base. Alors justement, sociologiquement, une démarche comme les Agora Collège, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Ce qu'on peut en dire déjà, c'est que c'est une démarche qui présente un certain nombre d'originalités à l'intérieur d'un paysage qui, pourtant, met la question de la participation des jeunes très en avant. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'avez plus de programme d'action publique en matière de jeunesse qui n'inclut dans ses conditions d'éligibilité, quand il s'agit de concours sur projet, notamment, et beaucoup de politiques fonctionnent comme ça. Beaucoup de dispositifs fonctionnent comme ça, vous n'avez quasiment plus de programmes qui ne mentionnent pas la participation des jeunes. La question, c'est quelle participation des jeunes? Parce que c'est quand même un mot, c'est quand même un signifiant vide, si vous voulez. C'est quand même un mot de... Tout le monde en parle, mais personne n'y met la même chose. Ce qui est intéressant avec les Agora, et même au regard de l'histoire des pratiques en matière d'éducation à la citoyenneté, ce qui est intéressant, c'est que ça place les jeunes en prise directe avec la décision. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un exercice de la citoyenneté au sens, vous voyez, au sens du practice de golf, quoi. C'est-à-dire, on se met à côté du terrain de golf et on s'entraîne à... Non, là, on est dedans. On est convoqué comme une voix qui compte pour prendre des décisions qui vont impacter une institution ou un collectif. Et ça, c'est en rupture avec pas mal de choses. C'est en rupture déjà avec la tradition de l'éducation civique à la française, qui est essentiellement une éducation fondée sur du contenu, qui est frontal, qui a un apport de connaissances. Quand vous apprenez la citoyenneté dans une salle de classe, vous apprenez pas à être citoyen. Vous apprenez les institutions, comment ça fonctionne, qu'est-ce que le droit de vote, etc., etc., mais vous ne faites rien. Une autre tradition qui est pour partie en réaction avec la première et celle qui s'est développée dans le champ de l'éducation populaire à partir de l'entre-deux-guerres et qui s'est intensifiée dans l'après-guerre où on s'est mis à considérer que la citoyenneté ne s'apprenait pas abstraitement mais elle s'apprenait en faisant. C'est par exemple le mouvement des auberges de jeunesse. C'est le mouvement scout. Donc, où l'idée, c'est de rassembler les jeunes et de les faire constituer des sortes de républiques de jeunes, où ils apprendront à s'autogérer et ils apprendront la vie sociale comme ça. Sauf que, en faisant ça, on arrache les jeunes à la vie sociale réelle, on les installe dans un territoire séparé, et l'apprentissage du politique, c'est uniquement l'apprentissage du politique dans la petite société de jeunes qu'ils forment. C'est-à-dire qu'ils sont en marge des circuits décisionnels, ils sont même séparés des circuits décisionnels. Là, ce qui est intéressant, c'est que le pari d'Innov, c'est de dire, non, on va les mettre en position de donner leur avis, et on va, très important, on va construire un dispositif qui garantit que cet avis, d'une manière ou d'une autre, sera pris en compte. Et ça, c'est une vraie originalité, je crois, qui mérite d'être soulignée. Une autre originalité importante, c'est l'ambition partenariale du programme. C'est-à-dire que, alors c'est pareil, le partenariat, c'est un mot d'ordre des politiques publiques depuis 20 ans, et c'est encore une fois un mot creux, c'est-à-dire que tout le monde parle du partenariat, mais personne n'y met la même chose. Là, on se retrouve avec un projet qui parie sur la collaboration entre des institutions qui ont plutôt l'habitude de se tourner le dos. Notamment l'éducation nationale et le monde de l'éducation populaire, de voir ces projets se développer à l'intérieur des collèges est quelque chose de relativement impressionnant quand on met ça dans un tableau général des initiatives existant en France en la matière. Par exemple, je participe à l'évaluation d'un grand programme national qui s'appelle le PIA Jeunesse, où il y a une vingtaine de territoires qui sont engagés avec un mot d'ordre de participation extrêmement fort. C'est une des sources de financement de Innov. Innov est le seul à faire ça. Donc, voilà, je ne sais pas quelle était plus précisément votre question, mais...
Non, mais c'était ça. Vous avez mis en évidence les deux aspects qui vous paraissent les plus significatifs sur l'originalité, l'intérêt de la démarche. On va revenir juste en fin de plateau. Mais alors, est-ce que ça ne va pas nous ouvrir sur un débat très très long? Ça, je ne sais pas. Il faudra que je coupe les micros à un moment ou à un autre sur justement cette rencontre entre l'éducation populaire et l'éducation nationale. Juste avant, revenons sur les agora lycées, puisque donc ça, c'est la nouveauté. Innov et les Franca veulent étendre les Agora Collèges au lycée. Pourquoi?
Parce que toujours plus, voilà, ce sera le mot.
Toujours plus de boulot, oui.
Toujours plus. Non, justement, sous, comme je disais, les Agora Collèges, ça a été vraiment un gros chantier qu'on a pu lancer. Quand je dis on, c'est du coup le collectif Innov, hein. Au tout début de l'expérimentation. Et aujourd'hui, ça s'est de plus en plus formalisé. On a pu avoir des résultats, avoir un réseau qui s'est agrandi et puis des collèges qui maintenant aujourd'hui vont eux-mêmes d'ailleurs nous solliciter pour pouvoir y participer, alors qu'au départ on ramait aussi un peu pour pouvoir avoir des collèges volontaires. Donc ça aussi c'est un bon indicateur ça a plutôt pris. Et donc justement l'idée c'était de pouvoir se dire tant qu'à faire, ce serait intéressant de pouvoir enchaîner sur un même parcours d'apprentissage un petit peu de la citoyenneté après le collège, et donc cette fois-ci en allant s'adresser directement au lycée. Et l'objectif aussi de la déclinaison en version Agora lycée, donc dans un deuxième chantier collectif, ce serait de pouvoir aussi s'adresser à des jeunes qu'on a peut-être plus de mal à capter, notamment ceux qui viennent de quartiers plus éloignés, comme des territoires plus ruraux, et aussi des fois des territoires un peu de plus de quartiers populaires et autres. Et en fait, tout ce petit monde se retrouve forcément à l'école, et en l'occurrence donc dans les lycées. Et donc l'objectif c'est d'aller dans des endroits la première année ça va être avec deux lycées, je suis trop agoréa collège avec deux lycées qui sont plutôt grenoblois, mais dans l'objectif c'est vraiment d'aller un maximum vers des lycées qui touchent des publics qui viennent de différentes communes, comme par exemple c'est un appel par exemple, on sait jamais, mais au lycée Marie Curie on a des gens qui viennent et des Chérolles, mais aussi de Clé, de Pont-de-Clé, etc. Voilà, mais peut-être que vous avez envie d'ajouter autre chose. Ouais. Pourquoi les agro-lycées,
Sandrine ? Alors, moi, j'ai envie de dire que on s'adresse à un autre public. Pour avoir fait la première rencontre avec les jeunes, ce qui m'a tout de suite assez frappée, c'est que le public est différent. Le temps dans le lycée est complètement différent. Enfin, en tout cas, la notion d'appartenance à un lycée ou à l'établissement scolaire est complètement différente. Et du coup, je pense que on aime aussi aller gratter, remodeler, repenser nos méthodes pour pouvoir les rendre accessibles à un plus grand nombre de jeunes, parce que c'est aussi nos ambitions, c'est que chaque jeune puisse se donner à l'exercice de cette citoyenneté. Et du coup, c'est aussi l'intérêt que on ait une méthode qui tourne, qui fonctionne, et du coup. Voilà, en ayant un autre public en face qui a d'autres problématiques, qui a aussi une vie complètement différente dans le lycée, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir retravailler, repenser cette méthode avec les jeunes qui ont aussi déjà beaucoup de propositions à nous faire.
Alors Eric, vous êtes positionné sur les Agora lycées,
exactement.
Même si vous n'avez pas vraiment d'expérience avec les Agora. Oui, je sais, mais c'est la convention.
Arrêtons,
hein. Je suis obligé de tutoyer tout le monde.
Bah, les masques, Christophe.
Là, je suis obligé de tutoyer tout le monde et je me voyais mal de tutoyer tous les proviseurs. Alors, on va regarder les élèves ensemble, hein. Donc, non, ça sera le vous. Bah, tu peux me dire tu après, hein. Donc, voilà, à quoi vous vous attendez sur ce travail avec des lycéens?
Déjà pour ce qui s'est passé avec les collégiens, ça a été un grand vivier de paroles, de pensées, etc. Et je pense que de passer un cap supplémentaire avec les lycéens, ils sont déjà, je veux pas rabaisser les petits collégiens, mais je pense que les lycéens sont plus proches de la vie active pour certains. Ils vont se sentir plus à même d'être modifiés mentalement sur des façons d'agir, des façons de faire, des façons de penser. Et je pense que ça peut vraiment en aider certains à soit aller plus loin dans leur vie, mais comme je pense dans leurs études, ça peut débloquer certaines choses. Et moi, je suis content d'être acteur de tout ça et de pouvoir leur donner un petit coup de pouce mental sur leur vie future, en vrai.
Donc les Agora Collèges, ça débute très prochainement. Et d'ailleurs, News FM est également positionné avec vous.
Eh oui, exact.
Mais d'ailleurs, Christophe,
un des lycées, oui.
Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus aussi sur l'implication aussi de News FM dans les Agora Collèges et les Agora Lycées, parce que En vrai, chers auditeurs, nous avons prévu une prise d'otage de la fin de l'antenne.
Mais on n'a pas non, le temps, c'est la fin de ce Non, bah, je peux parler rapidement, ouais. Surtout de mon expérience pratique, hein, puisque la décision de positionner News FM, ça vient de la direction. Hein,
c'est
de,
ça, après, de mon boss, Farid. Ce qui est particulier, c'est que pour le coup, News FM, vous êtes une association qui fait partie du conseil d'administration d'Innov, qui a été là depuis le tout démarrage aussi de cette expérience. Et donc, vous avez été sur la saison 1, 2 et 3 des Agora Collège, et puis encore là, sur les Agora Lycée.
Bah, je crois que moi, ce que je peux dire, c'est tout simplement qu'on évoquait le fait qu'on soit tous des structures qui se revendiquent de l'éducation populaire. C'est le cas également pour News FM. Les auditeurs écoutent News FM. Pour eux, c'est une radio comme les autres. Ils zappent sur la bande FM. Alors qu'en fait, il y a tout un projet associatif qui porte la radio News FM et qui fait qu'on participe à de nombreux partenariats. On s'inscrit vraiment dans le tissu social, local. À travers de nombreux projets sur lesquels on intervient et vous avez des échos, vous, auditrices, auditeurs, à travers les émissions spéciales qu'on peut faire, comme aujourd'hui, des plateaux extérieurs également, qui sont de plus en plus fréquents sur notre antenne. Voilà, tout ça, c'est issu de ce travail de collaboration et de partenariat entre News FM et les acteurs de la vie de la grande région grenobloise. Donc là, effectivement, ce côté travail d'éducation populaire, c'est à travers ce genre d'action que nous la faisons. Et du coup, ça me permet, fin de mon petit speech à moi, de vous renvoyer la parole à tous pour conclure le plateau, parce qu'on a Sana, notre animateur, qui s'impatiente de pouvoir retrouver son studio. Et oui, on a pris du retard, juste pour quelques réflexions sur cette rencontre entre l'éducation populaire, qui est donc, par définition, un mode d'éducation de différents publics qui est hors du circuit traditionnel de l'éducation de l'école ou d'autres structures qui font partie de ce qui est mis en place au niveau des pouvoirs publics, de l'État, etc. Donc là, l'éducation populaire vient à la rencontre de l'éducation nationale. Donc comment ça s'est passé, cette incursion dans les collèges, dans les lycées? On a entendu quand même que beaucoup de proviseurs étaient ravis, mais c'est pas toujours le cas.
Non, c'est ça. Effectivement, je pense que ça va vraiment dans les deux sens. À la fois, c'est intéressant de voir comment certains collèges arrivent à tisser une relation de confiance en fait avec eux, pour qu'ils nous laissent de la place et de la légitimité quand on va chez eux. Mais justement, de l'autre côté, je dirais aussi qu'il faut pas oublier que quand on est une structure d'éducation populaire et qu'on va dans un établissement, on est dans l'éducation nationale. Donc c'est-à-dire qu'on a aussi à nous prendre soin aussi des codes et du cadre dans lequel on s'inscrit, parce qu'on n'est pas, entre guillemets, on n'est pas non plus chez nous en fait. Et donc il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, et ça, je pense que vraiment à chaque fois que les expériences se sont bien passées, c'était parce qu'il y avait une relation de confiance qui s'était installée, soit parce que nous on faisait aussi l'effort de en amont bien expliquer, travailler avec les responsables des collèges pour préparer les étapes et que ça soit clair et que ça ne fasse pas peur, et que eux aussi puissent voir qu'on était organisés, que voilà, tout simplement on n'arrivait pas trop comme non plus des funambules. Et de leur côté à eux, ça leur demande aussi un certain lâcher prise et de faire confiance à des extérieurs. Donc voilà, ça va dans les deux sens pour moi, je dirais.
Totalement. Non, vraiment totalement. En vrai, pour moi, ça s'est bien passé dans les deux cas où j'y suis allé. Je trouve que justement, que ce soit le corps enseignant comme les directeurs, nous ont plus que bien reçus. Même O2V, il est venu nous voir à la fin pour nous remercier.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'était un personnage qui a aimé la façon qu'on avait de faire. Mais oui, c'est vrai qu'il faut toujours se rappeler qu'on est quand même dans ce milieu de l'éducation. Moi, c'est des trucs, il y a des petits réflexes qu'on oublie. J'ai une casquette tout le temps sur la tête. Voilà, on met pas les pieds dans un collège avec une casquette. C'est des trucs tout simples. Je prends ça comme exemple, mais il faut se repenser à tous ces codes-là qui sont normaux et que chacun des directeurs institue dans son lieu comme il a envie. Mais c'est vrai que des fois, il faut se rappeler de tout ça, et que des fois, quand ça fait un moment qu'on n'est plus à l'école, nous, quand même, il faut arriver à se souvenir et à prendre part à ces choses-là, voilà, dans les codes qu'ils ont aujourd'hui, sans vouloir les contrer de nos manières. Je pense pour les toilettes qui étaient fermées à clé pour certains, pour des raisons qui sont propres à l'établissement. Et on n'est pas là pour contrer ça ou quoi que ce soit. Il faut savoir faire avec.
Ouais, c'est vrai que pour certains établissements scolaires, ils peuvent nous voir un peu comme des gens qui viennent inciter à la rébellion
des jeunes, ouais.
En leur disant allez-y, ayez des idées, on va les développer, et boum, ça part dans tous les sens.
Exactement.
Et ça peut parfois être un peu en...
Non, bah, je voulais rajouter, parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qui s'est dit, au-delà de cette relation de confiance entre l'établissement et nous, le réseau d'éducation populaire, il y a aussi... La nécessité que l'établissement ait confiance en ces jeunes. Parce qu'à un moment, les choses vont aussi sortir des jeunes. Et dans la mise en place des projets, c'est aussi se dire qu'ils ont une vraie volonté de vouloir modifier le fonctionnement dans un but de mieux vivre. Et qu'effectivement, s'ils demandent la réouverture des toilettes, c'est pas juste pour embêter, mais parce que pour eux, ça leur pose un vrai problème. Et dans les collèges où ça s'est bien passé, c'est aussi parce que au-delà de la confiance qu'ils avaient en nous, ils avaient aussi confiance en la parole des jeunes et en leur capacité à pouvoir prendre des décisions qui soient collectives et qui soient pour des avancées collectives et non pas des avancées individuelles.
En guise de conclusion, bah, j'aimerais juste donner la parole à Régis pour avoir encore une fois la parole du chercheur, du sociologue. Rapidement, est-ce que l'éducation populaire a sa place dans l'éducation nationale ?
Oui, tout à fait. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que l'éducation populaire est née et s'est développée avec et en parallèle de l'éducation nationale, que l'ADN est la même et que les chemins se sont séparés à certains moments pour des raisons, sur lesquelles je ne vais pas revenir, sinon on va y passer 2 heures. Mais que sans doute il est temps aujourd'hui que ces deux souches, ces deux branches de la tradition éducative française se rejoignent à nouveau. Je crois que certains intervenants évoquaient le parcours citoyen pendant les différents plateaux. Or, une des nouveautés du parcours citoyen est précisément, dans le cadre de l'éducation civique, d'appeler les établissements scolaires à collaborer avec le territoire, avec les acteurs du territoire, pour précisément essayer de sortir d'un enseignement hors sol, qui serait décontextualisé, et que les jeunes puissent découvrir ce qu'est la citoyenneté au concret, là où ils habitent, avec les acteurs qui la font vivre au quotidien, c'est-à-dire les associations, les collectivités territoriales. Au fond, c'est la rencontre de deux méthodes pédagogiques, de deux approches pédagogiques, une approche par le haut, où on institue le citoyen par en haut, en lui expliquant ce que c'est qu'être citoyen, et une approche par en bas, où en fait, on fabrique du citoyen en le mettant en position de responsabilité. Ce que montrent les sciences sociales, c'est qu'aucune de ces deux approches n'est autosuffisante. Et que, aujourd'hui, un des grands chantiers, c'est de réfléchir aux conditions de la rencontre entre ces deux approches.
Eh bien, voilà, qui est plutôt encourageant. Ça veut dire que les agora collèges, les agora lycées ont encore de belles années devant elles, du moment qu'il y a à nouveau toute cette énergie pour les porter, parce que ça demande beaucoup d'énergie.
Ou tout autre projet qui serait dans cette veine, finalement.
Merci à tous les quatre.
Merci.
Voilà qui conclut cette grande émission spéciale Agora Collège sur l'antenne de News FM. Tous les plateaux seront évidemment disponibles prochainement en podcast sur notre site web. Donc vous pourrez les retrouver facilement. Ils sont librement écoutables et téléchargeables. C'est important de le noter. Un grand merci à tous les invités qui ont répondu présents durant ce milieu de journée, j'allais dire cette matinée, mais non, il est déjà 14h, bientôt 15h. Un merci spécial à Daniel Desfranca et à vous. Allez, à toi, je peux bien te tutoyer maintenant. À toi, Élodie, parce que vous avez fourni un gros travail toutes les deux pour préparer cette émission, pour mobiliser aussi tous les invités qui se sont succédés au gré des plateaux. Voilà, tout de suite, retour de la programmation musicale sur News FM. Et n'oubliez pas qu'à 16h, vous retrouverez le direct de l'après-midi avec Sana. Salut, bye
ciao,
bye.
Ciao.
Merci. Au revoir.